La première.
Oui.
Oui.
22h, 23h. Par où dire ?
Pascal Tison.
Dis-moi. Par où dire ?
Par où dire ?
Pourquoi ce thème Together, the New Collective Architecture ? Pourquoi c'était un thème qui nous tenait à cœur et pourquoi il nous a semblé important de traiter ça ici et de reprendre cette exposition? Eh bien, tout simplement parce que, à mon sens, l'architecture communautaire répond à différents défis. Explosion démographique, vieillissement de la population, effondrement prévisible du système capitaliste, changement climatique. Voilà une des possibilités que l'architecture propose pour sortir de ces impasses, pour répondre à ces différents défis.
Together, au CID. Centre d'innovation et de design au Grand Ornu jusqu'au 1er juillet.
Vous verrez qu'on commence par une introduction historique. Les commissaires l'ont fait démarrer au début du 19e siècle, donc début de l'ère industrielle, avec à cette époque toute une série de penseurs, je pense à Charles Fourier en France, Robert Owen en Angleterre, des penseurs qui réfléchissent à comment lutter contre la dégradation des conditions de vie des ouvriers. Conditions économiques, conditions de vie, manque d'éducation, dissolution du lien social. Qu'est-ce qu'on peut proposer ? Alors, dans les théories de Charles Fourier, il imagine déjà l'idée du phalanstère, donc l'idée de cet habitat commun.
Together, au CID, Centre d'innovation et de design au Grand Ornu jusqu'au 1er juillet. Together, la nouvelle architecture communautaire.
Et vous cultivez ?
Non, je cueille des sauvages.
Pas de jardin potager ?
Pas de potager. Pas assez de temps pour le jardin potager. Et si jardin potager il devait y avoir, ce serait en permaculture.
Avec Marie Poc, Andreas Ruby, Lionel Jadot, Dominique Blondiot et Laure Bertrand.
On passera au début du 20e avec les théories hygiénistes, avec des initiatives de femmes féministes qui imaginent un habitat commun autour d'une cuisine commune, autour d'une cuisine unique. On verra les heures et malheurs de cette proposition, les visions des modernistes aussi, puis ce qui se passe pendant la période de l'entre-deux-guerres. On passe aux années 60, les années 60, la vie communautaire, ce sont les beatniks, les hippies. Et puis, qu'est-ce qu'il advient de ces projets de vie collective dans les années 70 et 80, notamment en Suisse, pays qu'on imagine très discipliné, très sage. Il faut savoir que dans les années 80, la Suisse a connu pas mal de révolutions urbaines, avec notamment un important mouvement de squats, de squatteurs.
Et à une fois, j'entends... Je dis, qu'est-ce que c'est que ça ?
La prison change.
Très agréable le long des étangs.
On appelle une maladie honteuse.
Vous allez où ?
11e.
Ces lieux nous parlent.
Marie Poc.
Mais il faut quand même prendre un petit peu de distance et se rendre compte que tous ces projets, ces expérimentations de vie collective qui sont présentées dans la partie historique, tous, ou en tout cas une grande partie de ces projets, se sont soldés par des échecs. Alors pourquoi ? Il y a différentes causes à tout ça. Il y a le facteur humain. Quand on vit tous ensemble, il y a différents égos, différentes visions qui doivent s'affronter. Il y a le fait qu'en groupe, il y a une certaine inertie. Vous connaissez tout ça, hein, l'inertie, l'apathie du groupe, le culte du chef qu'on a tendance à responsabiliser en se disant dans un groupe, il y en a bien un qui va décider, il n'a qu'à s'en occuper et on attend que ça se passe. L'idée aussi, dans certains groupes, notamment les communautés hippies, l'idée de la liberté sexuelle. Comment combiner ça dans une vie de groupe ? Comment combiner ça avec des intérêts communs ? Ce n'est pas toujours facile non plus. Il y a un critère économique aussi. Souvent, ces projets collectifs manquent de moyens. Alors du coup, comment fait-on pour entretenir ces grands bâtiments qui demandent énormément d'entretien ? Il y a parfois aussi un manque de préparation, un manque de compétences. Quand on partage un bien et qu'on doit le faire vivre ensemble, qu'on tend vers l'autarcie, il faut pouvoir avoir certaines compétences, que ce soit en travaux du bâtiment, que ce soit en jardinage. On n'a pas toujours toutes les compétences ou elles ne sont pas toujours complémentaires. Et puis on ne trie pas toujours les gens au début quand on crée ce genre de projet. Tout le monde est très enthousiaste au début et donc on ne choisit pas les gens en fonction de leurs compétences. Tout le monde est bienvenu et parfois, dans ces communautés, des éléments perturbateurs peuvent s'introduire aussi.
Together, la nouvelle architecture communautaire, par Thierry Jeunico.
L'usure, le temps aussi, très enthousiaste au début, avec des beaux idéaux utopistes de vie collective. Parfois, face aux individualismes, ces beaux idéaux s'effondrent un petit peu.
Marie-Poc.
Il y a toute une série de raisons. C'est difficile, évidemment, de déterminer des causes qui s'appliquent comme ça à l'ensemble de ces projets, parce que forcément, un projet dans un pays du Sud, un projet au 19e ou au 20e en Suisse ou au Japon, ben, on n'est pas dans les mêmes conditions.
Together, une production de la Fédération Wallonie-Bruxelles, cellule architecture.
La seconde partie de l'exposition, vous verrez, ce sont des maquettes à l'échelle de la maison de poupée. Et là, on attire plutôt votre attention sur les espaces communs qui naissent entre ces différents projets architecturaux.
Et rappelez-moi votre nom.
Laure Bertrand. Je suis architecte, je sors de l'école ici à Louvain-la-Neuve. Donc c'est vrai que voilà, je connais bien la région ici autour. J'ai eu l'occasion de voyager aussi, de travailler en Suisse. C'est là où l'exposition au Grand Tournu m'a fait écho, parce que je trouve que les Suisses appréhendent différemment la manière d'habiter qu'ici en Belgique. Ils sont beaucoup plus ouverts.
On passe ensuite à la troisième partie où on est intervenu un petit peu plus. Donc cette partie était une architecture donc de EM2N, qui était une architecture qui présente à l'échelle 1-1 un appartement communautaire. La partie commune était conçue de façon, on va dire, assez abstraite et universelle. C'était une maquette géante qui était blanche. Et nous avons pris l'option d'interpréter l'idée de vie collective au premier degré et d'en faire une expérimentation où on assume, comme dans tout projet communautaire, la mixité, la diversité et éventuellement aussi le côté bordélique que peut représenter l'idée de vivre à plusieurs dans un espace. Alors le scénario, ce sont différents résidents. Il y a notamment une famille monoparentale, une mère célibataire avec son enfant, une dame seule un peu plus âgée, un couple dont le mari voyage souvent et une autre personne, son studio individuel aussi. Donc ces quatre résidents partagent un espace commun. Et cet espace commun, ben, on l'a confié à Lionel Jadot.
C-O-H-A-B-S. Donc en fait, c'est une jeune start-up qui existe maintenant depuis un an et demi. Et en fait, eux, au début de leur existence, m'ont contacté pour qu'ils cherchaient en fait un directeur artistique par rapport à leur projet. Ils sont venus me voir, j'ai visité un ou deux de leurs projets qu'ils avaient faits, j'ai discuté avec eux et j'ai trouvé que l'équipe était extrêmement dynamique et surtout que le projet était porteur en termes de concept de partage. Et je trouvais que il y a vraiment un travail à faire en termes d'upcycling par rapport à ce travail-là, plutôt que...
En termes de
d'upcycling.
Ça veut dire...
Lionel s'est engagé il y a un an, je pense, dans une aventure qui s'appelle Coaps. Alors Coaps, c'est une start-up basée à Bruxelles qui rachète des grandes maisons pour y faire ce qu'on appelle chez nous à Bruxelles des communs. Ce ne sont pas des cotes étudiants puisqu'on s'adresse à un autre type de public, et ça Lionel vous donnera un petit mot d'explication tout à l'heure.
Le recyclage de matériaux, justement, plutôt que de construire justement ou de rénover des bâtiments pour un habitat partagé, essayer de réfléchir à diminuer au maximum l'impact de l'achat de ces matériaux et d'essayer de travailler au maximum en circuit fermé, en économie circulaire, d'essayer de faire des récupérations sur d'autres chantiers, de faire des choses qui se croisent et de manière à diminuer aussi l'impact de la matière première. Donc d'essayer d'utiliser ce qu'on a dans un cheptel qui est autour de nous, de matière première qu'on peut utiliser, détourner pour réaliser chacun de ces projets.
Mais donc l'idée de créer dans ces grandes maisons une vie collective, une communauté. Lionel s'est occupé d'aménager ça. Alors, ce qui me semblait très intéressant, c'est d'abord qu'au-delà de l'idée d'offrir un toit commun, il y a l'envie d'animer une communauté. Ça passe par des nouvelles technologies et notamment une application que Coaps a développée et qui permet en fait aux résidents de rester en contact. On organise une fête ensemble, il se passe un incident, il y a une fuite ou il y a quoi que ce soit, on peut prévenir le propriétaire aussi. On organise des services en commun, services de navette.
Et donc, moi je ramenais cette idée-là directement à la première réunion en disant voilà, votre projet est très porteur, mais je trouve qu'on doit amener cette dimension de recyclage absolument. Et donc j'ai décidé de travailler avec eux et de rentrer dans la start-up. Et donc maintenant, on développe ces maisons de partage, de co-living, et avec chaque fois ce même esprit de réflexion pour que les habitants aient aussi un habitat qui soit différent, qu'on n'aille pas chez IKEA ou acheter du mobilier dans des grandes surfaces, des choses comme ça, pour ajouter plus d'âme à tout ça. Donc créer vraiment un vrai univers, parce que forcément ce sont des gens qui viennent de Belgique, de l'étranger, etc., qui arrivent dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, avec des gens qu'ils n'ont jamais vus. Et donc ça crée tout de suite une dynamique différente de se retrouver dans un lieu où il y a une émulation créative, parce qu'on a apporté autre chose avec le mobilier qu'on utilise toujours, que ce soit la table, que je taille dans des anciennes poutrelles en lamellé collé qui proviennent d'usines qui sont démontées. Donc c'est des grandes structures en lamellé collé. Dans ces structures en lamellé collé, on découpe les tables. On fait les tables, toutes les tables des maisons en coop sont faites un peu comme celles qu'on présente à l'exposition. On réalise les placards aussi avec des chaises, des assises de chaises d'école qui font office de portes. On utilise des chutes de marbre avec lesquelles on fait les plans de travail de cuisine et on fait un puzzle avec tous ces morceaux de marbre qu'on recoupe. On fait pas mal de détournements d'éléments qui sont par exemple des cale-portes en caoutchouc qui sont fabriquées par une petite usine qui fabrique ces cale-portes de manière tout à fait naturelle. Et j'utilise ces cale-portes comme les poignées des placards. Donc ça permet de fonctionner différemment, d'apporter un autre ressenti par rapport à un lieu de vie, et surtout un lieu de vie commun. Donc et aussi après tout le mobilier, on essaie de trouver un maximum de mobilier de récupération. Ça nous permet de faire travailler des petits artisans qui le remettent en état. Donc on redonne chaque fois une deuxième vie à du mobilier déjà existant, soit par une peinture, un regarnissage ou une petite transformation dessus. Donc on reste vraiment dans cette énergie-là et nos maisons sont chaque fois différentes. Mais ça permet de créer un ciment visuel qui fait que les gens se sentent tout de suite à la maison. En fait. C'est ça qu'on veut donner comme sentiment. Il y a ce côté vécu au lieu et qui crée tout de suite des bonnes synergies, une bonne émulation entre les habitants. Et puis parallèlement à ça, il y a aussi une application qu'on développe qui permet aux habitants d'être connectés tous ensemble, avec tous les membres de ces co-living qui sont disséminés dans Bruxelles. Et par le biais de cette application, il y a une petite démo qui tourne. Ils peuvent rentrer en contact avec les autres maisons, signaler un problème, signaler une demande, organiser quelque chose, organiser une fête. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui est en train de nous dépasser en termes de vie collective, que finalement, l'esprit coabs de vie ensemble devient quelque part un peu pas dire une référence mais un peu un mode de vie, un lifestyle et les gens s'y retrouvent et organisent même eux-mêmes des tas de choses en dehors de ça, des visites de musées, des groupements de voitures parce qu'ils n'ont quasiment aucune nom des voitures, donc pour faire des mini-voyages, donc c'est assez chouette, donc ça va plus loin que ce qu'on avait même pu penser au début, donc c'est assez intéressant.
Conduit les enfants à l'école, qui est-ce qu'on embarque, on fait un spaghetti pour tout le monde, comment on communique autour de ça. Donc il y a vraiment autour de cette application la possibilité de vivre une vie communautaire réelle.
Et comment, Lionel Jadot, écrivez-vous COHABS ?
COHABS.
Qui veut dire ?
C'est cohabitation, cohabitation. Donc c'est un... Alors, on aurait pu dire co-living, mais co-living, etc. On a fait COHABS, donc ça résonne pas mal.
Il y a une règle de base, c'est que la personne qui les a aménagés, donc Lionel, ne travaille qu'avec des matériaux de récupération.
Alors, cette exposition a gagné à être guidée par ses concepteurs, parce que ce n'est pas simplement le projet de nouvelles habitations, c'est carrément une piste pour un changement de société, où on passerait d'une économie de marché à une vie où il y aurait beaucoup plus de liens, beaucoup plus de partage et une économie quasi naturelle qui pourrait se faire par rapport à la spéculation à laquelle on assiste actuellement.
Et puis dans la quatrième partie de l'exposition, vous aurez là des cas d'études, donc différentes tables, 5-6 tables qui présentent des projets en détail. Donc là, on est vraiment dans la partie pratique pour des éventuels candidats à la construction collective, où on voit comment ça se passe. Je veux construire un habitat collectif. Comment s'inscrire dans un groupe, comment former un groupe, comment les décisions se prennent-elles, quel est l'organigramme, comment est-ce qu'on finance tout ça, comment est-ce qu'on contracte un prêt à plusieurs, comment est-ce qu'on sort de ce genre de projet, est-ce qu'on est lié, jusqu'à quel point est-ce qu'on est solidaire.
Contre laquelle, Dominique Blondiot, vous vous opposez?
Mon Dieu, qui suis-je pour m'opposer à la spéculation immobilière? On peut juste la déplorer et constater les dégâts qu'elle a pu faire. Dans des vies, une première crise en 2008, enfin une première crise du 21e siècle en 2008 qui a été vraiment occasionnée par ce genre de comportement et qui a encore des répercussions aujourd'hui, notamment. Et le malheur de familles qui parfois vont s'endetter pour un premier logement et vont traîner leurs dettes pendant des décennies. On en est maintenant à financer l'achat ou la construction d'une maison sur plusieurs générations.
C'est bien plus que le logement.
Andreas Rubin.
Le logement, c'est plutôt un médium qui exprime, qui rend visible des changements sociaux et politiques.
Et la question sociale, la question humaine, c'est quoi ?
D'offrir des manières de vivre qui sont dignes à des besoins des gens, qui sont affordable en anglais, c'est...
Qui puissent être accessibles.
Oui, donc qui ne sont pas trop chers. Il s'agit d'offrir une manière de vivre en ville qui permette de participer vraiment à la vie sociale de la ville. C'est-à-dire, au modernisme, il y a eu cette séparation des fonctions de la ville. C'est-à-dire, il y a eu le logement, le travail, les loisirs et le trafic.
Arrivé à un certain âge, on peut... accumuler les constats. Et ce qui peut paraître tentant quand on est plus jeune, quand quelque part on manque d'expérience, on manque d'exemples de ce qui peut se passer, arrivé à un certain point, on peut reconnaître ce qui est plus essentiel. Et ce qui est plus essentiel, ce n'est pas accumuler de l'argent. Vous savez, ça a été beaucoup dit, hein. On ne mange pas l'argent, on ne respire pas l'argent. Et je pense que notre façon de fonctionner mène surtout à la désertification, dans tous les sens.
Tiens, Marie Poch, Andreas Ruby évoquait souvent Zurich en Suisse. Pour quelles raisons ?
Andreas Ruby connaît évidemment bien la situation suisse. Et de façon un peu étonnante, il y a croisé des projets assez convaincants d'habitat groupé. Alors ce qui est étonnant, c'est que Zurich est quand même une place forte de l'immobilier, c'est une cité assez prospère, où on s'étonne un peu de voir émerger comme ça des projets d'ambition sociale où des gens se regroupent dans l'idée de vivre une expérience d'habitat commun qui coûte moins cher, qui soit accessible et qui mise sur l'humain plus que sur le capital. Et donc je pense qu'il y a ce contraste, cette découverte étonnante de la vivacité de ces mouvements de vie communautaire à Zurich. Il faut savoir aussi historiquement que dans les années 80, Zurich, qu'on pense être une petite ville très calme, a connu d'importantes émeutes urbaines et également tout un mouvement de squatteurs. Alors dans l'exposition, c'est cette ambiance de manifestation, de révolte urbaine qu'on voit sur les grandes photos qui sont appliquées sur les murs.
À Bâle, à Fribourg notamment, j'ai deux exemples comme ça en tête où on a des logements, des appartements dans un parc.
Laure Bertrand.
Donc un immeuble à appartement avec des gabarits de 3 à 4 niveaux dans un parc. Les gens, ils ont leur immeuble, leur terrasse et puis ils partagent le parc. Et je trouve que ça c'est un modèle pour habiter en ville qui est vraiment très agréable. Et à Fribourg, c'était une structure un petit peu plus petite. Il y avait, à mon avis, 2-3 logements. Et on avait été interpellés par l'architecture et quand on est arrivé, on voyait qu'il y en a un qui faisait des travaux, mais que le voisin à côté aidait à faire les travaux. Et on sentait que la dynamique qui venait des deux logements rayonnait sur le quartier. Parce que les espaces ne sont pas aussi cloisonnés, les espaces extérieurs ne sont pas aussi cloisonnés qu'ici, je trouve personnellement en Belgique.
Y compris du règne animal, n'est-ce pas ?
Du règne animal et même du règne végétal.
Cette exposition, moi, me passionne parce qu'elle parle non seulement d'architecture, mais surtout, elle parle des gens.
À des espaces partagés ou à moins clôturer leurs zones privatives. Ils laissent vraiment les jardins plus en participation avec le reste du territoire.
Et on voit une vraie évolution. La génération des jeunes qui sort de l'école aujourd'hui, contrairement à notre génération, elle ne s'intéresse plus à devenir propriétaire, faire de bonnes études pour avoir un bon boulot, s'acheter sa propre voiture, devenir propriétaire d'abord d'un appart, puis d'une maison, puis d'une résidence secondaire, éventuellement d'un bateau. Non, les jeunes aujourd'hui pensent plutôt à partager des logements, partager des transports, le covoiturage, c'est une pratique tout à fait régulière chez eux, prendre par contre plus de temps pour eux, accorder plus d'importance au bien-être. Et donc je pense que les priorités des jeunes se sont déplacées.
Je m'intéresse beaucoup aux plantes sauvages, je parcours les sentiers, les friches, et je constate que de plus en plus, ou ça disparaît ou ça devient uniforme. Il y a une tristesse de la diversité qui s'installe. C'est une perte pour tout le monde.
Parallèlement à ça, mais on voit que les modes de vie s'adaptent aussi. Et donc l'exposition ici, elle parle de projets de personnes qui à un moment ont eu la volonté de créer un projet de vie commune. Et c'est vraiment de ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas simplement d'acheter un bâtiment pour en partager les frais. Non, on organise des fêtes ensemble, on prend des décisions collectives, ce qui n'est d'ailleurs pas toujours évident parce qu'il y a autant de visions qu'il y a, d'individus. Comment est-ce qu'on décide? Comment est-ce qu'on prend les décisions? Qui prend le lead à un moment? Donc c'est avant tout une expérience d'humain.
Mais si vous vous intéressez aux plantes sauvages, le site que vous dirigez se situe dans un autre site qui est celui du Grand Ornu, qui est une sorte de familistère, c'est-à-dire un lieu où des gens ont travaillé ensemble, ont vécu ensemble. Se sont partagés les choses,
ouais,
la boucle se boucle.
Exactement, exactement. L'exposition prend tout son sens au Grand Ornu, puisque le Grand Ornu était un projet utopiste. Son fondateur, Henri de Gorges, avait imaginé cette cité ouvrière autour du Grand Ornu, où il offrait tout d'abord un confort qui était tout à fait exceptionnel pour l'époque, mais aussi toute une série de services communs qui, selon lui, allait fidéliser sa main-d'œuvre, mais qui allait aussi améliorer leurs conditions de vie. Donc, il y avait une crèche, une école commune, il y avait une salle de fête, il y avait une boulangerie, des lavoirs, donc toute une série de services et d'activités qui permettaient de souder sa communauté d'ouvriers.
Mais on voit qu'à Zurich, ils sont vraiment en avance en termes de logement, ils créent des écoquartiers, des rencontres entre habitants pour créer des grandes structures de logement.
Au XIXe siècle, on imaginait ce système comme le phalanstère de Gaudin, qui n'est pas très loin d'où on parle, comme étant une mise en perspective pour que les gens travaillent mieux. Aujourd'hui, le collectif et le vivre ensemble, c'est pour que les gens vivent mieux.
Oui, dans les projets du 19e, notamment dans ces cas d'école comme le familistère de Guise, de Jean-Baptiste André Gaudin.
Marie Poc.
Le projet tourne autour d'une entreprise au départ. Il y a chez Gaudin l'usine de poils qu'il développe et le familistère est tout à fait lié à cette activité économique. Aujourd'hui, donc dans les projets qu'on a présentés ici, il s'agit essentiellement de projets où on vit ensemble et où on crée soi-même une éventuelle activité. Encore, ce n'est pas toujours une obligation. Mais on peut effectivement construire sa communauté autour d'un but, d'un projet à développer. Je prends un exemple. Il y a un ensemble d'appartements au Japon, à Tokyo, qui s'est construit autour de l'idée du restaurant. Alors, au Japon, évidemment, le restaurant, la culture du resto de rue, c'est quelque chose qui est beaucoup plus développé que chez nous. Donc, c'est quelque chose de très important dans leur vie sociale. Et ces résidents de ces 7 appartements ont comme mission de participer au développement et à la prospérité de ce restaurant. Donc ils y travaillent, ils y consomment, et ce restaurant est intégré dans leur projet d'habitat.
Dominique Blondiot.
C'est aussi parce que c'est une source d'alimentation qu'on nous a laissé perdre de vue. Il y a encore des pays où ça a une certaine importance. Les pays de l'Est, les pays méditerranéens connaissent encore bien les qualités des plantes qui poussent seules au bord des chemins. Nous, peut-être parce qu'on a été industrialisés depuis plus longtemps, nous avons perdu ces connaissances et de pouvoir manger du trèfle ou de l'onagre, ça paraît tellement fou, alors que un pissenlit ou je ne reviens pas sur le nom, une autre plante qui ressemble au pissenlit peuvent être savoureux et parfaitement gratuits et en plus parfaitement exempt de pesticides si on choisit l'endroit où on les cueille.
Lors d'un voyage récent que j'ai fait en Inde, à Auroville, j'ai pu observer qu'un restaurant s'est établi dans un atelier de réparation de vélos. C'est tout proche, hein, que l'idée du Japon.
Oui, mais oui. Par contre, est-ce qu'on connaît ça chez nous? Chez nous, on a tendance à être enfermé dans des catégories, mais voilà, je suis contente de voir qu'on puisse à un moment faire fi de normes, je pense à l'AFSCA, hein. et pouvoir imaginer d'autres façons de vivre. Il faut réinventer le monde.
Mais au-delà des plantes sauvages que vous cueillez, vous pratiquez un mode de vie qui est, comment dire, le plus simple possible.
Effectivement, je ne cède pas à la mode. C'est, de toute façon, c'est un éternel recommencement. J'essaie de concevoir mes parcours qui sont en voiture, mais de manière circulaire. Donc, je ne fais pas des déplacements en étoile. Je fais des parcours sur lesquels je m'arrête en route. J'ai beaucoup pratiqué le covoiturage. Bon, maintenant, ça, c'est un petit peu plus difficile. Et autant que possible, je ne gaspille pas. Et parfois, j'incite les autres à ne pas gaspiller.
À Tourine-Saint-Lambert, près du bois de Bouy, là-bas, près de Jean Blou. Et donc, effectivement, l'idée part d'une idée familiale. Hein. Moi et ma sœur, on s'entend très bien. Et on avait vraiment envie d'essayer de construire. Mais construire sur des terrains aujourd'hui qui sont à plus de 100 000 euros, ce n'était pas faisable pour nous. Et donc, on a vraiment sillonné la région autour de Louvain-la-Neuve. Parce que le compagnon de ma sœur travaille à Louvain-la-Neuve. Il voulait toujours avoir la possibilité d'aller en vélo là-bas. Donc, il fallait rester dans un certain périmètre. Et donc, on a cherché des terrains où on arrivait à pouvoir mettre deux maisons, ce qui n'est pas facile, au service d'urbanisme, etc. Et ils n'adhèrent pas tellement à cette idée de densification. J'espère que c'est quelque chose qui va venir avec le temps. Et donc, ici, on était sûr de pouvoir construire deux logements, parce qu'il y avait eu un certificat d'urbanisme. Et donc, on s'est lancé dans l'aventure. Il se fait qu'en fait, c'est notre village d'origine, à ma sœur et à moi, parce que mes parents habitent à l'autre bout du village. Au final, on a chacun tous voyagé et puis au final, on se retrouve tous ici. Et je travaille dans le village aussi, donc tout se retrouve ici. Donc ça, c'est assez chouette dans la dynamique.
Un exemple, toutes ces feuilles qui sont imprimées d'un côté et qui peuvent nous servir à prendre des notes. De toute façon, quand j'étais petite, une feuille dont un morceau était blanc ne serait jamais partie à la poubelle. Elle aurait de toute façon servi de feuille de brouillon, un terme que certains de nos enfants ne connaissent plus.
Quand on a acheté, il a fallu passer l'acte chez le notaire et on ne savait pas comment. Parce que c'était un terrain pour une famille et là, non, c'était deux familles.
Laure Bertrand.
Et le notaire nous dit, c'est pas compliqué, vous divisez le terrain en deux et puis c'est tout. Je dis, non, hors de question que je divise en deux. C'est pas du tout mon but, c'est un terrain étroit, je ne vais pas encore faire quelque chose de plus longiligne. Je voulais vraiment qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus participatif. Et c'était aussi la volonté de ma sœur et son compagnon. Donc on a vraiment composé la maison avec des espaces extérieurs qui sont privatifs, semi-privatifs, complètement partagés et des espaces liés à la campagne. On a le verger qui est complètement à l'arrière, la parcelle est énorme. Enfin, moi je trouve grande. Voilà, quand on travaille, c'est beaucoup d'occupation. Donc on a laissé le reste de la parcelle libre et c'est un verger. Et puis c'est la nature qui reprend le dessus. On a semé une prairie fleurie et puis on espère que les abeilles, etc. fassent leur travail.
Vivez-vous dans un habitat partagé ?
Non, mais je partage beaucoup de mon temps avec d'autres personnes et ces moments-là, pour certains, me paraissent précieux. Une amie qui aime que je passe chez elle pour jouer une partie de Scrabble, une autre qui préfère que je sois là quand elle a envie de cuisiner parce que ses enfants ne vont pas forcément aimer ce qu'elle a envie de préparer. Des petits services qu'on peut se rendre, nourrir les animaux d'une amie qui part en vacances grâce à ça, faire partie d'un SEL, donc système d'échange local, qui existe, même si beaucoup de gens ne savent pas. Nous en avons autour de nous, par exemple dans le Borinage, il y a le Boricel. Et on peut échanger comme ça des services entre gens qui, au départ, ne se connaissent pas, mais peuvent donner quelques heures, parfois quelques minutes de leur temps, qui sont très précieuses à d'autres, qui elles-mêmes offrent autre chose à d'autres.
Je viens de voir Lionel Jadot. Vous avez évoqué le fait que il est aussi à l'initiative d'une sorte de vivre ensemble particulier.
Alors Lionel Jadot a rejoint une équipe, une start-up qui s'appelle Coaps à Bruxelles, qui existe déjà depuis quelques années. Et donc Lionel est arrivé chez eux il y a un an et il travaille en tant que directeur artistique. C'est une petite start-up en fait qui rachète des biens assez importants à Bruxelles et qui sont souvent
pas accessibles au plus grand nombre. Et l'idée, justement, est de rendre ces biens exceptionnels accessibles en le divisant en plusieurs lots. Donc, les différents résidents occupent chacun une chambre, mais partagent une grande salle à manger, une grande cuisine, un grand salon, éventuellement une salle de jeu. Il y a des salles de fitness aussi dans les maisons Coaps. Et Lionel, qui est quand même le roi de la récup, travaille avec eux en aménageant tous ces intérieurs avec uniquement des matériaux recyclés ou des objets dépareillés qu'ils trouvent en brocante, au petit rien ou sur les poubelles.
Que depuis la rue, on puisse continuer à percevoir les campagnes et pour tout le monde, parce qu'il y a une tendance, je trouve, en Belgique à cloisonner chez soi. Or, d'ouvrir un petit peu les choses et son habitat sans que forcément on soit vu par les autres. Je trouve que c'est aussi important. Donc on perçoit quand même toujours les campagnes de part et d'autre de la maison. Il n'y a pas un avant et un arrière. On a quand même chacun deux petits jardins privatifs. Juste suffisamment pour mettre une table, manger avec des amis, faire un petit barbecue. Et voilà. Et puis à l'arrière, on a un grand jardin qui lui est dédié à cette grand jardin partagé. Et là, à terme, sous le pommier, on fait une grande terrasse. Et puis c'est là qu'on se rassemble, qu'on mange avec les amis de chacun ou avec la famille. Où les enfants jouent et courent, et où les chiens ou les chats gambadent, quoi. Et alors aussi, une chose très importante, c'est dans la manière dont on a réglé l'espace et dans la distribution, c'est que quand on rentre et qu'on sort de chez soi, d'office, on peut rencontrer l'autre famille, quoi. On n'a pas chacun sa porte d'entrée, on a un lieu commun à partir duquel on rentre chez soi. Et ce lieu commun, donc c'est un espace couvert. Et il peut aussi être dédié à mettre une grande table l'été, quand on veut être au soleil ou protégé de la pluie. Quoi. Voilà, tous ces espaces peuvent être utilisés de manière différente. Et puis après, on a nos deux logements qui sont bien distincts, mais qui ont, avec mon regard d'architecte, une architecture similaire. Quoi. C'est assez important d'avoir une cohérence globale de l'architecture.
Si je vous dis AMAP, ça vous dit quoi ?
Oh, bien sûr. Même les amateurs de Plus belle la vie doivent savoir ce que c'est. Hein. Ce sont des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne.
Sur le fait de construire à la campagne, c'est que le bâtiment, il reprend des langages de l'architecture traditionnelle des fermes. On a un volume avant complètement opaque, qui nous sert là d'un petit local poubelle, vélo partagé d'ailleurs, et d'un local atelier qui est pour le compagnon de ma sœur qui aime bricoler. Et donc ça permet de pouvoir reculer la maison un peu plus et de créer une cour qui peut s'apparenter à ces cours de ferme. Le volume pareil, il est très simple, un volume unitaire. Et il y a juste une brisure qui est liée à la géométrie de la parcelle qui distingue très légèrement les volumes. C'était quand même l'idée de vivre ensemble dans un seul grand volume et d'arriver à donner une privacité à chacune des familles. Quoi.
Donc c'est prévoir à plusieurs personnes quelles marchandises, quels produits maraîchers on va consommer et donc permettre à l'agriculteur qui va les faire pousser, d'être sûr d'avoir un débouché.
Là, c'est un menuisier, c'est un homme seul, ça c'était plus difficile, on rentre...
Quitte à ce que parfois la nature ait empêché qu'il ait exactement la production qu'il espérait. Ça fait partie des risques d'une production naturelle.
Pendant la construction, il a été adorable. Après, on a eu des divergences d'opinion sur la clôture, on va dire. Et voilà, c'est une personne qui a toujours vécu ici, on rentre dans des mentalités différentes et ils ont peur qu'on vienne envahir leur espace. On se sent très fort, quoi. Or, nous, ce qu'on veut juste, c'est qu'on s'entende bien entre voisins. Après, les autres voisins, on s'est rencontrés l'une ou l'autre fois, mais on devrait initier un apéro pour initier un peu une vie, se connaître mieux parce que... L'idée, c'est d'arriver à on se connaît d'office ici, mais d'essayer de générer des bras qui puissent aider à se connaître mieux, quoi. Parce que, par rapport à... Moi, j'ai grandi, mes parents ont aussi vécu ici à la campagne, j'ai grandi à la campagne. Entre maintenant et aujourd'hui, je vois une différence. Avant, on se disait tous bonjour dans la rue. Et je me souviens, j'allais chez le fermier en face chercher du lait, chez le fermier d'à côté chercher des œufs. ça ne se retrouve plus, quoi. Et en fait, on a envie ici de mettre des poules, des biquettes. Enfin, voilà, on a envie d'essayer de retrouver ce type d'univers et d'environnement, en ayant quand même chacun nos travails respectifs, avec des heures de bureau 9-18, quoi.
On peut voir l'avant ?
Oui, on peut voir l'avant, oui.
Mais cuisiner avec les autres, ça veut dire ?
Ah, ça veut dire recevoir un SMS. Tu passes ce soir, on va préparer une pizza ?
Je me souviens un jour avoir visité une cure dans un village à côté, où on rentre, c'est un petit jardin, enfin c'est une petite allée qui mène à la porte et deux petits jardins. Je trouve qu'une entrée d'une maison, c'est magnifique. Donc c'est un peu cette idée de rentrer entre deux petits jardins un petit peu plus soignés, et puis après, derrière, on laisse la campagne faire sa route.
Ou as-tu envie qu'on fasse une tarte à la banane ?
Together, au CID, Centre d'innovation et de design au Grand Ornu jusqu'au 1er juillet. Together, la nouvelle architecture communautaire.
Et puis on a là dans la perspective, on a le pommier qui a été placé à la rencontre exactement des deux lignes. On a travaillé avec un paysagiste aussi. C'est assez important d'avoir un regard complémentaire.
Voilà.
Ce sont des voisins ?
Non, ce sont des connaissances qu'on a rencontrées au fil de la vie, depuis longtemps ou plus récemment. Mais bon, je dirais que le point commun, c'est que les enfants ne mangent plus. Il n'y a plus un repas commun dans les maisons, et donc c'est un plaisir de rencontrer quelqu'un qui va aimer soit préparer, soit consommer ces choses qu'on avait l'habitude de faire pour toute la famille.
À vous écouter, vous dénoncez à travers vos mots, semble-t-il, une énorme solitude.
J'ai la chance de pouvoir rencontrer toutes ces personnes. Mais c'est vrai que j'ai été privée de voiture pendant quelques jours parce qu'elle était en panne. Et oui, ces personnes, je pense que j'aurais manqué et elles m'ont manqué.
Mais vous dénoncez la solitude des gens aujourd'hui. Quand vous dites que les enfants ne mangent plus le repas familial.
C'est la société qui le veut. Je le remarque dans de nombreux ménages. Le dénoncer, est-ce que ça sert à quelque chose ? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux essayer d'y remédier ?
Ce mode de vie que vous décrivez, Dominique Blondiaux, je suppose qu'il devait être très différent de celui de votre enfance.
Alors, en tant qu'enfant, j'ai été plusieurs années en internat, à mon plus grand plaisir d'ailleurs, et j'ai donc appris à être en communauté avec les autres. Et puis j'ai eu une vie tout à fait normale avec compagnons, enfants. Et puis il y a eu le travail qui demande quand même pas mal de temps. Au passage, j'ai aussi eu des expériences avec des enfants qui sont venus chez moi en famille d'accueil, avec des logeuses. Donc, la façon de se répartir l'espace, le territoire, disons que c'est un petit peu quelque chose que j'ai bien expérimenté.
Les espaces extérieurs ont autant d'importance, que, surtout à la campagne, enfin, en ville aussi au final, que le bâtiment. Le bâtiment, il est bien si l'espace extérieur est bien géré autour aussi. Donc c'est très important. Et donc on avait discuté avec lui, c'est d'ailleurs en discutant avec lui sur les structures existantes du village qu'on s'est dit ben, on va mettre ici l'atelier à rue, le mur aveugle et on va créer la petite cour. Tout ce genre de mécanismes, ils sont très importants.
Laure Bertrand.
Mais on voit qu'à Zurich, ils sont vraiment en avance en termes de logement. Ils créent des écoquartiers, des rencontres entre habitants pour créer des grandes structures de logement. Ça, c'est assez incroyable parce qu'ici, on est à deux. À deux, il faut s'entendre, mais c'est facile, on n'est qu'à deux. Quand on est 5, 15 ou 25, c'est encore différent. Hein. parce que c'est sûr que c'est pas... Voilà, là on a parlé d'architecture, de territoire, de paysage. Après, il faut s'entendre comment on va entretenir, comment on va intervenir s'il y a des travaux. Et donc tout ça, on doit le régler avant de faire la construction. Il faut que ça soit clair pour éviter d'avoir après les désagréments et de se disputer. Il faut que chacun puisse prendre sa place avec une personne qui mène peut-être une activité, une autre qui mène une autre activité, mais il faut faire confiance aussi à l'autre. Ça, c'est important. Il faut arriver à s'entendre ou sentir qu'on a une fibre identique pour s'engager dans ce type d'habitation.
Cette exposition au site vous réjouit-elle ?
Les espaces salle à manger et cuisine qui sont au rez-de-chaussée. Et on a le salon et une petite zone bureau qui sont à l'étage. Donc on a vraiment les espaces de séjour qui sont dissociés sur deux niveaux. Ça a été imaginé parce que j'avais vraiment envie de pouvoir être dans la maison et de pouvoir voir le paysage et la campagne aux alentours. Et donc quand je suis dans la cuisine et dans la salle à manger, ben, j'ai vraiment un lien avec mon jardin et avant et arrière, et on a quelque chose de plus privatif. Quand je suis dans le salon, tout d'un coup, je vis dans le village. Je vois l'église, je vois les éoliennes au loin. Et enfin, c'est une fois qu'on a terminé notre repas, nos discussions à table, on va se reposer, se divertir dans le salon avec une autre atmosphère. Et alors, dans les espaces, donc ces deux espaces sont totalement transparents. Hein. On voit que depuis la rue, on peut voir le jardin au travers de l'espace. Donc ça, c'était aussi une volonté de créer à chaque fois. Donc au final, on a 1, 2, 3, 4, 5 traversantes complètes du bâtiment, qui sont la partie principale qui est dédiée à l'entrée, et les deux autres qui sont salon, salle à manger, des deux logements. Et entre les deux, on a des masses. Et dans ces masses viennent se loger les chambres, les salles de bain, les espaces de rangement, tous les éléments annexes, les espaces de nuit. Voilà. Ça, c'est le principe de la maison. Donc, on lit en façade, hein, une alternance comme ça, de transparence et de plein. Beaucoup de clients viennent nous trouver. Ils veulent des maisons à 280, 200 mètres carrés. Or, bon, dans celle-ci, il n'y a que deux chambres, c'est peut-être un peu limité, mais à côté, il y a trois chambres. Donc, une famille de quatre personnes vit dans cette maison de 250 mètres carrés, et il y a tout ce qu'il faut. Et donc, c'était aussi un challenge de créer des petits logements pour que le budget étant limité, ben, il fallait vraiment faire attention à ne pas gaspiller trop de mètres carrés, parce que chaque mètre carré se paye, quoi. Donc... Les deux enjeux, c'était un terrain unique à partager et alors des petits logements qui, à notre sens, à tout son, enfin, regarde aujourd'hui avec toutes les économies d'énergie et tout qu'on doit faire, ça a tout son sens, quoi. Ce week-end, on avait une exposition ici dans la maison et donc il y a un ou deux voisins qui sont quand même venus par curiosité. Parce que j'ai une voisine qui me dit « Oh, la maison, elle est quand même bizarre, hein, c'est un peu... Enfin, ils ne sont pas habitués, c'est un peu rebutant qu'elle me fait. Et surtout, on voit tout !» Et ça, c'est inimaginable chez nous en Belgique de tout voir. En Hollande, c'est quelque chose qu'on peut retrouver, mais en Belgique, c'est incroyable. Et alors, elle fait le tour de la maison à l'intérieur, et puis elle revient vers moi et elle me dit « Ah oui, c'est quand même incroyable, parce que quand on est à l'intérieur, on se sent chez soi. » Donc elle dérangeait parce qu'elle a l'impression qu'elle va nous voir et nous observer, ça la dérange. Et au final, quand elle se trouve à l'intérieur, elle se rend compte qu'il y a une certaine une intimité en tout cas suffisante pour la vie de famille, quoi. Donc ça, c'est chouette d'avoir ce type de réaction.
Maintenant que j'ai entendu les motivations des personnes qui l'ont mise sur pied, je la trouve enthousiasmante grâce aux pistes qu'elle propose, justement, pour un changement de société, pour qu'il y ait moins d'isolement, hein, si pas de, moins de solitude, mais moins d'isolement pour des tas de personnes et que des services puissent être rendus de manière intergénérationnelle ou autre. C'est vraiment une piste de solution.
Pour le permis, À la commune, ça a été. Enfin, ils m'ont bien suivi. À la région, on a toujours des difficultés. On en a eu de nouveau. Donc j'ai dû argumenter mes choix et la commune a suivi mes choix. Donc ça, j'étais contente que la commune puisse me soutenir à ce niveau-là, parce que c'est toujours quand même une bataille. Et puis sinon, on a quand même, vous parliez de cadastre, mais on a délimité de manière assez claire quand même avec le notaire les espaces qui sont privés, les espaces qui sont communs. Donc j'ai vraiment un plan qui définit les zones. Après, dans l'usage, on n'est pas aussi vigilant, mais au cas où il y a un problème, les espaces sont bien définis sur plan.
La seconde partie de l'exposition, vous verrez, ce sont des maquettes à l'échelle de la maison de poupée. Et là, on attire plutôt votre attention sur les espaces communs qui naissent entre ces différents projets architecturaux.
Et rappelez-moi votre nom.
Laure Bertrand.
Qu'avez-vous retenu de la matière que je vous ai envoyée par WeTransfer et que vous avez pu écouter sur l'exposition qui a lieu au Grand Ornu, sur les logements?
Il y avait 4 points que j'ai retrouvés dans la conception ici de la maison. C'est le point de départ déjà, hein, le point de départ qui est souvent un point de départ financier. Donc d'essayer de trouver des alternatives pour se loger et avec un logement qualitatif. Après, je me suis confrontée, comme il l'explique, parce que j'entendais effectivement qu'ils avaient reproduit une maquette à l'échelle 1-1 et où ils mettaient en avant les espaces partagés, les espaces collectifs. Ça, c'est quelque chose qui est très agréable à travailler en tant qu'architecte et maintenant à vivre, parce que quand on invite ou quand on fait une exposition ou quand on a fait une grande fête, on se rend compte qu'il y a vraiment une fluidité entre la maison et le jardin. Les gens, ils se baladent entre la maison, ils passent par le couvert, ils repassent. Enfin, il n'y a pas de sens unique. Et donc, le fait d'avoir créé ces espaces partagés induit aussi, quand on a du monde, une certaine convivialité.
On passe ensuite à la troisième partie où on est intervenu un petit peu plus. Donc cette partie était une architecture donc de EM2N, qui était une architecture qui présente à l'échelle 1-1 un appartement communautaire.
J'avais retenu aussi qu'ils ont, après, ça je trouve que c'est très bien, je suis curieuse d'aller voir, mis des tables qui exposent l'effet beaucoup plus pratique de l'habitat groupé. Parce que au tout début, on s'est quand même senti démunis, hein, parce qu'on est d'abord allé chez un premier notaire où il n'avait pas d'expérience et on tournait en boucle. On n'avait pas du tout les éléments satisfaisants, enfin, qui nous convenaient suffisamment en tout cas. Et c'est en allant voir une autre personne qui est un ami de mon collègue architecte, qui ont fait aussi un habitat groupé de 4-5 maisons dans la même commune. Je suis allée le voir et je lui ai demandé, enfin, faire partager ses expériences, comment ils avaient géré ça, hein, au niveau plus concret et juridique. Et là, il m'a donné le coordonné de sa notaire qui, elle, avait développé vraiment tout un travail sur l'habitat groupé. Et donc, dès qu'on est arrivé, là, on s'est senti, moi je me suis toujours directement senti en confiance et j'ai su qu'on parlait de la même chose. Mais c'était très important de mettre vraiment les règles et c'est un peu des fois comme un contrat de mariage, quoi. S'il y en a un qui meurt, s'il y en a un qui quitte, voilà, tout ça on doit le régler avant. Et alors, la dernière partie, c'est plus qu'un projet de construction, c'est un projet, c'est les gens, c'est le côté humain qui est mis en avant. Et moi, ce que je rêve, c'est que d'autres clients viennent après nous trouver et nous disent « Non, je ne veux pas construire une maison, mais je veux construire 2 ou 3 maisons. » Et d'essayer de recommencer des modèles qui induisent effectivement des liens avec les gens un petit peu plus profonds, où on se rencontre plus facilement, mais on se rencontre, mais rapidement. Hein, on peut se voir 5-10 minutes, des fois je rentre du travail, je passe chez ma sœur, je discute 5-10 minutes de la journée, et voilà, c'est un chouette échange. Des fois je rentre et oh, ben, je vois qu'il y a une voiture, tiens c'est une amie que je connais, ben, je vais passer faire un petit coucou. Bon, j'avais pas prévu de visite, mais par contre je vais faire un petit coucou à côté. Tout ce genre de mécanisme, voilà. Je trouve que c'est agréable. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me parle.
Comme se pratiquait la chose avant, dans les campagnes au 19e siècle.
Tout à fait. Où je me souviens, quand j'allais chez ma grand-mère, les gens dans la rue passaient, ouvraient la porte, faisaient « Coucou, ça va ?» et puis repartaient. C'est une chose qui ne se fait plus maintenant. Retrouver des relations plus fortes ou plus vraies. Surtout à l'heure de Facebook et etc.
Together, au CID, Centre d'innovation et de design au Grand Ornu jusqu'au 1er juillet. Together, la nouvelle architecture communautaire. Avec Marie Poc, Andreas Ruby, Lionel Chateau, Dominique Blondiot et Laure Bertrand. Et je vois, sur la table basse, un livre est entré à la permaculture.
Oui.
Projet potager.
Projet potager, oui. Dans le verger, oui, on a un projet potager. Ma sœur va rentrer. En fait, ils étaient à l'étranger, là, pour quelques temps. Et donc, on s'est dit, dès qu'ils rentrent, on fait un potager. Et bon, on est très sensible à l'agriculture bio. On a des maraîchers dans le village qui ont développé tout un potager pour la vente en permaculture. Donc j'avais été visiter l'année passée et donc je me suis dit, je vais m'informer un peu.
Together, la nouvelle architecture communautaire, par Thierry Genico. Together, une production de la Fédération Wallonie-Bruxelles, cellule architecture.
Retrouvez Par Oui Dire tous les jours de la semaine entre 22 et 23 heures.
Oui.
Oui, oui.
La première.